Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Partageons les couleurs et les différences.
Voir, entendre,
sentir,
toucher.
Regarde ailleurs. Partageons les couleurs et les différences.
Le voyage, chemin le plus court pour se découvrir soi.
Le voyage, chemin le plus court pour se découvrir soi.
L'émission s'appelle Regarde ailleurs. L'idée, c'est vraiment de donner la parole à des gens que je rencontre en France, à l'international. Regarde ailleurs, c'est tourner son regard vers soi, mais aussi vers l'extérieur. J'aime bien penser qu'un parcours de vie peut inspirer d'autres personnes, et je donne la parole à des voyageurs, des réalisateurs, des écrivains. Avec moi, Lolita, dans mon camion, donc je ne sais pas grand-chose de toi encore, si ce n'est que tu es d'origine alsacienne, mais que tu as fait le choix de tout quitter pour être plus en phase avec peut-être tes convictions, tes croyances, en tout cas donner du sens à ta vie. Donc Lolita, on va peut-être revenir au tout début, donc raconte-moi, qui es-tu ? Parole libre.
Qui je suis ? Si on doit revenir au début, donc je viens de Strasbourg, je suis née en Alsace. Et jusqu'à plus de mes 30 ans, on peut dire que j'ai une vie plutôt classique. Donc j'ai étudié l'immobilier, le droit immobilier. J'ai travaillé dans l'immobilier, dans le logement social, pour être un petit peu plus proche de mes valeurs. Jusqu'au jour où finalement, pour faire court, j'ai laissé tout le confort de la ville, où j'avais donc un super appart à Neudorf, un travail à 5 minutes à vélo, le yoga, toutes les commodités, l'école pour ma fille à côté. Sauf qu'en fait, je me suis rendu compte que ça ne m'allait plus. Et donc, je suis partie à environ 1000 km de Strasbourg, de notre chère Alsace, pour aller dans les Corbières. Donc, entre Perpignan, Narbonne, Carcassonne, où j'ai vécu 3 ans pour faire un projet là-bas d'association de permaculture. Donc on a monté, créé un jardin énorme en partant de rien. Et voilà, pendant 3 ans, on a cultivé des légumes, vendu des légumes, au début à prix libre, des restaurateurs.
Alors je t'arrête, déjà belle introduction. Donc, j'entends qu'il y a déjà un changement de vie assez radical là-dedans. Tu te retrouves dans l'immobilier et tu fais le choix de tout quitter. Est-ce que tu peux revenir sur sur ce qui s'est passé en toi? Comment est-ce qu'on acte un changement de vie important là pour le coup? Tu avais un boulot stable, fixe, et tu fais le choix d'aller faire pousser des légumes, et aujourd'hui tu es dans une communauté. Donc comment est-ce que tout ça a grandi en toi? Quel a été le déclic, l'élément clé qui a fait que tu te dises maintenant j'essaie vraiment de m'aligner par rapport à ce que je suis et ce que je vibre à l'intérieur de moi?
C'était un mélange en fait. Quand j'ai eu 30 ans, ouais, j'avais déjà ma fille, j'ai commencé le yoga, et je sais pas, un peu du jour au lendemain, ça m'a apparu comme une évidence que en fait la vie que je vivais, ça me correspondait pas, que j'avais plutôt suivi les rails tracés par la société, mes parents, et du coup je crois que c'est vraiment, vraiment, vraiment la découverte du yoga et des pratiques, méditation, yoga, mantra, qui m'a mis un peu une claque, en fait, et qui m'a mis aussi, surtout, devant mon évidence. Enfin, si tu fais des rituels pour la pleine lune, à vouloir souhaiter je sais pas quoi, faut te rendre compte aussi de quoi t'as vraiment envie, et surtout de ce que t'as envie, t'es pas du tout en train de le faire, quoi. Donc du coup, c'était vraiment ce genre de pratiques qui m'ont fait un déclic. Et le fait d'avoir 30 ans aussi, c'est, je sais pas, c'était un petit peu bombe des deux.
Mais avant tes 30 ans, t'avais pas bougé, t'étais pas parti en voyage, t'avais pas fait un tour du monde, t'avais pas à faire une sorte de césure dans ta tête et dans ta vie.
Avant mes 30 ans, j'ai pas bougé, je passais beaucoup de temps mon truc, c'était les festivals. J'allais toujours, et j'aimais beaucoup cet esprit de communauté qu'il y a dans les festivals. Je trouvais, au-delà de la musique, le fait d'être avec tes voisins de festival et que un te donne du sel et toi tu lui donnes ton reste de pâte, j'ai toujours adoré un peu ces familles éphémères qu'on se crée dans les festivals. Mais non, je suis pas partie ni en tour du monde, j'ai pas été en Inde, j'ai pas fait non. Non, j'allais beaucoup dans les bars et dans les festivals. Et bon, j'étais quand même on avait participé à une création d'association pour éveiller un petit peu les gens au recyclage, etc. J'avais fait des trucs. Voilà, et puis aussi, bon, je pense que tout ça, c'était lié à la façon d'élever ma fille, en fait. Moi, j'ai choisi, par exemple, d'allaiter jusqu'au sevrage naturel. Et en fait, dans ma vie normale de citadine qui travaillait dans l'administratif, au bout d'un moment, j'en suis venue, en fait, à mentir parce que j'en pouvais plus que les gens me jugent, finalement. Et qu'ils ne m'arrêtaient pas de faire une obsession de quand est-ce que j'allais arrêter d'allaiter. Donc voilà, c'est, je sais pas, des petites... je pense que voilà, le fait d'être maman, les 30 ans, le yoga, voilà, là, c'était... Et puis, ben, le fait de aussi, qu'est-ce que je veux offrir à ma fille. Quand je l'ai mise à l'école à 3 ans, je m'en rappelle très bien, à l'entretien du périscolaire, la dame m'a dit, bon, quand même, vaut mieux ne pas la mettre au périscolaire, parce que ça lui fait des très longues journées, il y a beaucoup de bruit, c'est dur pour un enfant de 3 ans... Et en fait, je lui disais, mais en fait, je travaille, j'ai pas le choix, entre guillemets. Et voilà, tout ça, au bout d'un moment, ouais, ça fait que non, en fait. C'est un peu, je pense, la coupe, elle déborde, quoi. Au bout d'un moment, ouais, j'avais plus envie de ça.
Tu pars découvrir la permaculture, ou créer une association, tu parlais de permaculture avant, donc tu pars avec ta fille sous le bras.
Alors, j'ai rencontré un homme en festival reggae, justement, qui était mon voisin de festival. Et du coup, voilà, c'est parti comme ça en festival. On s'est dit, ouais, bon, on va faire un jardin, machin. Et ben, en fait, on l'a fait. Voilà, lui, il avait déjà décidé où est-ce qu'il voulait aller, etc. Et puis, ben, moi, j'y suis allée avec ma fille plusieurs fois. Ouais, ce qui m'a vraiment séduit, enfin, moi, je vivais à Neudorf, en pleine ville. Donc, forcément, un petit village de l'Aude, rien que là, déjà, le choc, il est pas mal, quoi. L'école, il y avait, je pense, moins de 40 élèves dans toute l'école, alors que dans l'école de Moira, il y avait 1000 élèves à Strasbourg. Et puis bon, bah, la température aussi, faut pas se leurrer.
Mais là, quand tu quittes l'Alsace, c'est la première fois que tu quittes, que tu changes de région, que tu vas vivre ailleurs en France, donc vraiment dans le sud-sud, quoi, enfin dans les Pyrénées.
Ouais, c'est la première fois. J'ai toujours vécu toute ma vie à Strasbourg et voilà. Et puis j'ai demandé une rupture conventionnelle, enfin tout s'est enchaîné. Puis bah, je suis partie vivre dans l'Aude comme ça, quoi. Et donc, bah, on a créé une association et. Ben voilà, c'était un boulot énorme. Enfin, on nous a prêté des jardins complètement en friche. Et on voulait bien sûr travailler sans moteur ni rien. Donc on a tout fait à la main, quoi. Voilà.
Combien de temps ça a duré?
Le projet en tout? Moi, je suis restée 3 ans. Donc pendant 3 ans, on a fait vraiment que ça, en fait. Voilà, j'ai arrêté de travailler, mais en fait, j'ai arrêté d'être payée à travailler puisque finalement, j'ai passé tout mon temps pour l'association où je faisais tout bénévolement. Donc, on a passé 3 ans et on a fait un jardin, mais énorme. On mangeait nos fruits et nos légumes, pardon, super rapidement parce qu'on était à fond, quoi. Tout ce qu'on faisait, ça avait vraiment bien fonctionné au niveau matériel, j'ai envie de dire, Ouais, on a vendu des légumes super rapidement, on faisait des marchés,
Mais c'était quoi l'idée derrière tout ça? Donc quitter Strasbourg pour remettre un peu de sens dans ta vie, ou remettre les mains dans la terre, ou t'étais animé par quelle force, par quelle idéologie?
Bonne question. J'avais envie d'essayer de vivre différemment, en fait. Enfin, j'avais pas un truc vraiment concret, mais j'avais envie de... Je pense que l'idée, c'était aussi de reprendre de l'autonomie, non? Parce que bon, voilà, passer ses journées à travailler pour gagner de l'argent, pour s'acheter à manger, je me disais, pourquoi pas essayer de faire à manger directement. Et puis, depuis quelques années déjà, avant que je parte, ça m'avait intéressé, voilà, la permaculture, tout ça, c'était, je pense que c'est toujours à la mode, etc. Donc, je sais pas, j'avais cette envie aussi de, ouais, mettre les mains dans la terre, faire des légumes, et puis c'est un peu je pense que c'était un peu, pas mon fantasme, ouais, mais un peu mon rêve, non, je veux partir faire des légumes, quoi. C'était même pas tant réfléchi, non, c'était plutôt un élan, Et en fait, pour moi qui ai vécu toute ma vie en ville, Je m'étais intéressée, j'avais fait des petites formations de permaculture et tout, mais rien que vivre dans un village, je veux dire, même en Alsace, j'ai jamais vécu dans un village, donc juste vivre dans un village avec, je sais pas, les chasseurs, les risques d'incendie, enfin, les systèmes d'irrigation, enfin, tout ça, c'était complètement inconnu pour moi. Et...
Donc là, tu sors complètement de ta zone de confort où tu as un boulot à Strasbourg qui est payé, tu parlais de l'immobilier, tu te retrouves à planter des légumes et aller vers une forme d'autonomie et bosser peut-être même beaucoup plus que ce que tu ne faisais à Strasbourg, parce que pour tendre vers une autonomie, eh ben c'est un boulot complètement dingue, parce que là, on est dans les mains dans la terre, on parle du vivant et on ne sait pas comment ça fonctionne aujourd'hui. On ne sait pas comment faire pousser ce qui nous nourrit au quotidien.
Ben non, je savais pas. Mais je sais toujours pas. Enfin, j'en sais un petit peu plus sur ce sujet, mais en fait, au bout d'un an, j'ai pas du tout eu envie de retravailler et donc j'ai même pas essayé. Donc j'arrêtais pas de repousser un peu en fait. Je me disais je continue comme ça encore un peu et je verrai. Et puis surtout, j'avais du temps pour faire des choses que j'avais jamais le temps de faire, dessiner. Je pense que j'ai toujours eu finalement un côté un peu créatif que j'ai jamais eu le temps juste de voir ou laisser s'ouvrir ou vivre.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs. Le voyage. Chemin le plus court pour se découvrir soi.
Lolita, je te rencontre en Alsace. Ce soir, tu animais un cercle de chants de mantras. Et tu me disais que maintenant, tu habites en Andalousie, dans une communauté. Donc, tu parles de l'Aude, les Corbières, où tu as passé 3 ans à faire de la permaculture. Et après, qu'est-ce qui a acté, encore une fois, ce changement? Donc déjà, premier changement de vie pour partir de Strasbourg jusque dans l'Aude. Donc, tu te retrouves de salarié dans une agence immobilière à permacultrice pour finalement encore changer. Pourquoi? Et parle-moi de cette étape-là de ta vie.
Dans l'Aude, au milieu du jardin et compagnie, ce qui s'est passé pour moi, c'est que je me suis rendu compte que je pouvais faire de la musique comme chaque être humain finalement. Sauf que avant ça, j'avais pas conscience que la musique, ça s'apprenait. Je pensais qu'on était dans une famille musicien, on était musicien et puis c'était comme ça. Et puis moi, j'étais pas née dans une famille musicien, donc voilà, j'étais pas musicienne. Sauf que j'ai pris conscience que je pouvais faire aussi quelque chose et déjà à Strasbourg j'aimais beaucoup beaucoup les chants de mantras, ça me faisait vraiment du bien. Et dans l'Aude, là où je vivais, j'avais pas autour de moi de gens qui chantaient des mantras, donc j'ai décidé d'apprendre à jouer un petit peu de guitare. J'ai commencé par le ukulélé, mais voilà, ukulélé, guitare pour m'accompagner chanter des mantras. J'ai fait ça pas mal dans mon petit village. J'ai réussi finalement à apprendre quelques accords, animer des cercles avec des amis. Et puis, au plus j'apprenais, au plus ça prenait de l'importance et au plus ça me passionne vraiment. Et ce qui s'est passé dans l'Aude, c'est que moi, j'ai eu aussi un grand changement pour moi. C'est que j'ai complètement arrêté de fumer, de boire. J'ai vraiment changé mon alimentation. J'ai fait pas mal de jeûnes. Et en fait, je me suis rendu compte que cet environnement, il me nourrissait plus, il me convenait plus. Et donc du coup, je suis partie en fait de nouveau avec ma fille. Donc là, on est devenus nomades. On a vécu dans notre voiture pendant quelques mois. On a vu, on est allé à l'écolieu Terrasil, qui est un écolieu donc tourné autour de l'école à la maison. On a passé pas mal de temps là-bas. C'est vraiment un lieu génial. Et puis en fait, c'est un peu comme pour le départ de Strasbourg, sans vraiment des explications. Dans mes pratiques, voilà, de méditation, mantra, les pratiques que je fais quotidiennement, je sentais un appel pour l'Espagne, sans aucune explication concrète, vraiment. C'était comme juste un appel du cœur pour l'Espagne, donc... et donc au fond de moi je me disais si c'est pas maintenant que tu fais vraiment ce que tu veux dans ton cœur, à quel moment tu vas le faire? Enfin, l'écolieu Terrasil, c'était génial, mais je sais pas pourquoi je sentais à l'intérieur de moi cet appel pour l'Espagne. Donc j'ai décidé d'acheter un camping-car et de partir avec ma fille pour l'Espagne. Donc on ne parlait pas espagnol. C'était au moment où il y avait le pass sanitaire. Donc on ne devait pas normalement traverser la frontière. Donc voilà aussi comme on vivait près de Perpignan, quand tu dis quand tu vis là-bas et que tu dis je vais en Espagne, c'est comme quand t'es enfant à Strasbourg et que tu dis je vais en Allemagne. Finalement, ça te paraît pas quelque chose d'impossible, quoi. Donc du coup, ben on y allait et ben on a pu traverser la frontière et donc on a voyagé un petit peu en Espagne avec d'autres familles françaises qui voyageaient en camping-car. On a descendu la côte tranquillement. Et puis, après quelques mois de voyage, ma dernière étape avant de vouloir rentrer en France, c'était de rendre visite à donc une amie que j'ai depuis plusieurs années maintenant, qui vivait dans un éco-village, enfin qui vit dans un éco-village en Andalousie, où j'avais déjà été. Donc, on est allé lui rendre visite au mois de mars 2021. Et voilà, aujourd'hui, ben là aujourd'hui je suis en Alsace, mais aujourd'hui notre maison c'est là-bas. On n'a toujours pas décidé. J'ai pas l'impression vraiment de faire des choix. En fait, j'ai l'impression de vivre plutôt suivant les évidences de la vie. Tu vois, je me suis pas dit bon ben ça y est, on arrive ici et puis on reste. Ça s'est fait en fait. Et donc maintenant, on vit dans cet éco-village depuis 2 ans. On a appris à parler espagnol. C'est un éco-village qui n'est pas accessible en véhicule, donc je ne pouvais pas y aller avec mon camping-car. C'est pour ça que je suis donc dans la maison de mon amie avec elle. Et voilà, c'est un éco-hameau, ça s'appelle, Eco-Aldea El Calabacino. C'est pas une communauté. Il n'y a pas une charte où il n'y a pas un projet de groupe vraiment. C'est juste des gens qui sont allés retaper des ruines d'un hameau abandonné. Mais je pense que juste le choix de vivre à cet endroit, ça fait déjà quelque part un groupe. Enfin, j'ai l'impression que ça relie les gens entre eux, même si finalement ils sont très différents. Et donc voilà, c'est un endroit où il y a beaucoup, beaucoup d'artistes, d'artisans. C'est très international et moi je suis arrivée là-bas en sachant mes 4 accords de mantra pour pouvoir faire un cercle vraiment basique et pour pouvoir chanter des mantras basiques. Et en fait, la vie m'offre là-bas un entourage de personnes musiciens du monde entier finalement, puisque j'apprends avec des Mexicains, des Chiliens, des Argentines, des Iraniens, enfin... Et donc, du coup, là-bas, j'ai l'opportunité, en fait, d'apprendre la musique, puisque moi, j'avais appris toute seule, sans vraiment étudier. Et donc là, j'ai la chance d'avoir des super profs, de pouvoir troquer les cours. Donc, les cours que je reçois chaque semaine de chant et de guitare, par exemple, je le troque contre du babysitting. Et en fait... je suis super heureuse, quoi.
Et comment tu gères ta fille là-dedans qui grandit, donc d'une manière un peu particulière? D'abord 3 ans dans permaculture, ensuite tu dis que tu es nomade en camping-car. Là, dans un éco-village où, si je comprends bien, tout se fait à pied, hein, tu peux pas accéder en voiture, hein, tu fais tes courses, mais après c'est monter ou descendre sur plusieurs kilomètres à pied.
C'est pas des kilomètres, pardon, okay. C'est 600 mètres, okay. Je pense. Mais bon, c'est en montée, ça monte beaucoup. Ma fille, au mois de septembre, elle va avoir 11 ans, donc elle rentre là dans la phase pré-ado, clairement. Qu'est-ce que je peux lui apprendre pour sa vie future? Et en fait, quand je me dis que quand moi, j'étais à l'école et que j'avais 10 ans, ça n'existait même pas les téléphones portables à cette époque. Donc en fait, comment je peux essayer d'imaginer le futur? Je peux pas, c'est impossible. Donc ce que je me dis est... Ce que je crois quand même observer dans la nature, c'est que en fait, ce qui fait qu'on vit tout simplement, c'est notre capacité d'adaptation. Et donc, je me dis que cette vie un petit peu hors norme entre guillemets qu'on a avec ma fille, je me dis mais tout ça, ça lui apprend à s'adapter. Et donc c'est en ça un petit peu que je trouve que ça donne de l'espoir. Et puis quand je les vois, les enfants là-bas. Juste déjà, bien sûr, ils ont aussi des écrans et du sucre. On ne vit pas non plus comme des mormons, voilà. Mais je pense que d'avoir une petite bande de copains à 10 ans et d'évoluer dans un endroit juste où il n'y a pas de voiture, je pense que ça change quand même un peu la donne. Ça change les activités, les, je sais pas, il y a pas de magasin là où on est, donc qu'est-ce qu'ils jouent avec quoi, je sais pas, elle connaît super bien tout le nom des ânes, ma fille par exemple, elle est beaucoup dans les animaux, donc je me dis, je vois comme elle observe les insectes, les ânes, les chats, tous les animaux qui vivent autour de nous. J'ai l'impression que finalement, je juge, moi en tout cas, ça d'un apprentissage peut-être plus précieux que de rester à une table à devoir faire des multiplications. Enfin, même, on en fait aussi, mais... Et puis aussi, je pense que le fait d'être un enfant dans notre situation, en tout cas, école à la maison, seul avec sa maman ou avec la personne avec qui on habite aussi, enfin, c'est qu'elle participe toute la journée avec nous. Donc, quand on a les jours de travaux à la maison, ben, elle doit aider avec la pioche. Enfin, elle aide parce que c'est comme ça, en fait. Elle, avec la pioche, elle aide à charger le bois. Et moi, je suis une citadine, j'apprends toujours ça maintenant, donc je trouve ça précieux qu'elle apprenne ça jeune aussi. Voilà, ce que c'est, ce que notre vie finalement, elle, le confort, ce que ça engendre. Je veux dire, quand t'es dans un appart et que tu dois appuyer sur un bouton pour mettre en route le chauffage, c'est pas la même chose. Donc,
pourtant, ça, c'est ton quotidien jusqu'à l'âge de 30 ans. Tu dis, tu es urbaine, hein, t'es citadine, donc tu connais le confort et tu vas vivre par choix dans une vie communautaire où là, tout est beaucoup plus compliqué. Hein. Tu comprends le prix de l'eau, le prix de l'électricité, le prix de l'alimentation, l'effort en fait que ça nécessite de faire tout ça. T'aurais très bien pu te dire, mais en fait, moi, je veux pas cette vie là, c'est trop difficile. Mais non, qu'est-ce qui fait que toi, tu es réussi à t'adapter à cette vie beaucoup plus roots, beaucoup plus nature, beaucoup plus dure aussi, quelque part?
Mais la vraie question que je me pose, c'est plutôt comment on fait pour vivre autrement que comme ça. Enfin, moi, maintenant, tu vois, ça fait que 6 ans que je suis partie de la ville et je me dis, mais... À quel point je me suis sauvageonisée, je sais pas comment dire, tu vois, que à tel point qu'aujourd'hui, quand je dois passer n'importe quelle quantité de temps en ville, j'ai plus envie, quoi. Je me dis, oh là là, non. J'ai du mal à expliquer, c'est juste que j'ai l'impression d'être à ma place, en fait, dans la nature. J'ai l'impression de... Je sais pas, et puis tout est... On a conscience de l'abondance beaucoup plus. Tout est à disposition, même si bien sûr tu dois fournir un effort. Mais en même temps, si je mets l'intention de vouloir être la meilleure guitariste du monde et que je touche pas ma guitare, ça va pas marcher. J'ai l'impression que c'est un petit peu pareil, finalement, la vie moderne. Tu vois qu'on a tous, oui, appuyé sur des boutons et tout se fait... Puis alors aujourd'hui, avec les GPS et compagnie, c'est pire que tout. On sait même plus où on est. Du coup, j'ai l'impression de, je sais pas, de me réapproprier ma vie. Et puis, ben, aussi, quand on est seul dans la nature, seul dans la nature, on a des voisins et tout, on n'est pas, voilà. Mais clairement, je sais pas, quand il y a une grosse araignée qui vient dans ma baignoire, je vais pas aller chercher un voisin. Et puis, je sais pas, je vis maintenant avec les animaux, les insectes. Je sais pas, c'est la vraie vie en fait. C'est comme si quand on vivait dans un appartement en ville, comme si on vivait seul. Enfin, on voit aucun animal, on voit presque pas d'arbres, on voit que des autres humains, non? Je veux dire, je sais pas, n'importe quel animal, il est en contact avec les autres animaux aussi. Pourquoi pas nous finalement? Pourquoi est-ce qu'on va s'emmurer derrière des barrières finalement, des cages? Et cette vie avec moins de confort, finalement, bah, je pense que ça apprend aussi les plaisirs. Quand t'allumes ton feu pour te réchauffer, je sais pas, déjà, il y a toute la connexion avec l'élément, non? Quand tu vois, toi, tu fais le feu, tu vois le nez, le feu qui vit comme ça, tu dois le nourrir, et puis parce que lui aussi te nourrit, enfin, je sais pas, c'est plus un échange, c'est plus vivant, c'est... Et puis, ce que j'adore là-bas aussi, c'est par exemple, quand on va chercher notre eau, donc l'eau qu'on boit, on la cherche directement à la source avec nos bidons. Voilà, on doit marcher, je sais pas, pas très longtemps, 10 minutes, même pas. Mais en fait, ce temps-là, t'es en train de marcher dans la nature, quoi. Enfin, à quel moment dans notre vie de tous les jours, on prend le temps juste de marcher entre... Tu vois, alors, c'est pas... où tu vas faire de la randonnée. Mais en fait, à aucun moment, t'es en train de... d'allier l'utile à l'agréable comme ça, je trouve ça génial. Je vais à mon cours de guitare, je marche en plein dans la forêt, mais franchement, que demande le peuple? Enfin, J'ai l'impression d'être juste plus près de mon essence, de même pareil. Enfin, on parle toujours beaucoup de ça quand on parle des écolieux, mais je suis désolée. Enfin, les toilettes sèches, juste pouvoir faire pipi dehors. Enfin, je trouve que c'est totalement, ça paraît stupide à dire, mais ça change la vie en fait. Parce qu'en plus, ça te force plusieurs fois par jour à observer la nature autour de toi. Tu sors la nuit, t'entends les chouettes, tu sors au lever du soleil, tu vois le ciel. Enfin, c'est. C'est comme si à chaque fois c'était en moi, waouh, mais je fais partie de ça. Enfin, je suis pas juste enfermée dans mes murs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs. Le voyage, chemin le plus court pour se découvrir soi.
J'aime beaucoup cette phrase qui dit « les choses qu'on a finissent par nous posséder ». Je pense que c'est vraiment ça. Parce que finalement, quand on a peu de choses, on n'a pas peur de perdre les choses. On n'est pas... Donc, il y a vraiment ça. C'est un peu ce détachement du matériel, ouais, de l'argent, etc. Et bah, comme tu viens de le dire, la confiance, en fait. Je pense qu'on fait beaucoup nos choix sur les peurs, basés sur nos peurs. Et c'est vrai que ben, beaucoup de ces livres de sagesse, ils disent non, on fait nos choix soit par peur, soit par à l'amour. Et en fait, je pense vraiment que ça, c'est quelque chose qu'on devrait un petit peu plus travailler, faire nos choix en fonction de l'amour, de ce qu'on ressent vraiment dans notre cœur, de ce qui nous appelle. Et de laisser un petit peu la raison et tous ces trucs voilà, où on finit par s'enfermer finalement. Voilà, bah, comme tout le monde, dans les périodes un petit peu plus difficiles où j'ai peur ou machin, je me laisse envahir par d'autres choses. J'ai toujours des phrases de sagesse qui me viennent, que j'aime dessiner, que j'aime chanter. Et ma préférée, c'est « j'ai toute confiance en la création ». Pour inventer des situations bien plus parfaites que toutes celles que je suis moi-même capable d'imaginer. Et en fait, ça, cette phrase, elle résume vraiment, je pense, les dernières années de ma vie. Et j'espère les prochaines. Parce que, en fait, je sais pas, j'ai l'impression que quand on lâche, on se permet de lâcher et de suivre le mouvement de la vie, vraiment, ça fait très cliché ce que je dis, mais c'est tellement ça. Que en fait la vie elle est abondante, la nature, tout est là et voilà, vraiment avoir confiance, cultiver la confiance et je pense aussi se rapprocher des gens inspirants, clairement. Je pense que j'ai un côté un petit peu trop vouloir convaincre les autres, tu vois, longtemps, bah, plein de fois je me dis ah oui mais mes anciens amis ou je sais pas, je vais leur dire et puis ils vont comprendre. Et ça aussi, je pense que c'est bien de lâcher et de côtoyer des gens inspirants pour pouvoir toujours ben, aller dans ce sens, en fait.
J'aimais bien quand tu disais, finalement, « less is more », le moins on possède, le plus on se sent libre. Qu'est-ce que c'est que pour toi, la liberté ?
Ben, pour moi, être libre, pour la partie vraiment corporelle, j'ai envie de dire, c'est respecter mes rythmes biologiques, respecter... Bah, mon rythme de sommeil, mon rythme menstruel, le rythme des saisons. Pour moi, ça, c'est vraiment la liberté, en tout cas, dont j'ai envie. Et sinon, au niveau plus mental, c'est justement ne pas suivre le mental. La liberté, c'est ma liberté, ce serait pouvoir faire mes choix en fonction de ce que me dit mon cœur, en fonction de ce que je ressens. Ouais, la liberté pour moi, c'est ne pas écouter sa raison, vraiment. Ne pas écouter sa raison et écouter son cœur, c'est vraiment ça pour moi.
Et on va terminer, tu me disais que tu aimes bien récupérer quelques philosophies, quelques phrases comme ça, qui te servent de mantra, que tu dessines ou que tu écris. Cite-moi-en quelques-unes, quelques phrases qui sont inspirantes pour toi et qui t'ont donné quelque part un cap à suivre dans ta vie, dans ton quotidien.
J'aimais bien toujours penser à cette phrase de Paulo Coelho, je pense. L'heure la plus sombre est celle qui précède le lever du soleil. Je pense qu'il y a plein de moments où il y a des choses qui sont en train de se passer, mais où on ne le voit pas, là, maintenant. Cette phrase, je l'aime beaucoup parce que je pense qu'il y a plein de moments où, quand on est en train de vivre des choses fortes qui vont nous amener à juste des prochaines étapes ou des nouveaux apprentissages, quand on est dans le moment un peu sombre, un peu, voilà, je sais pas, dans des émotions très fortes où on va plus voir tout ça, on va pas avoir ce recul. Et donc, cette phrase, elle me permet toujours de me rappeler qu'en fait, voilà, les moments les plus difficiles, c'est ceux où j'apprends le plus. Donc, en fait, finalement, c'est génial, toutes ces choses difficiles, qu'on qualifie de difficiles, non, dans notre esprit, bien, mal, nanana. Et sinon, aussi une de mes préférées, c'est le jardin que je cultive contribue à la beauté du monde. Voilà.
Lolita, merci, merci beaucoup.
Merci.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Partageons les couleurs et les différences.
Voir, entendre,
sentir,
toucher.
Regarde ailleurs. Partageons les couleurs et les différences.
Le voyage, chemin le plus court pour se découvrir soi.
Le voyage, chemin le plus court pour se découvrir soi.